You're listening to Getting Lit with Linda Mora, the podcast where we welcome you to get lit. Canadian lit, that is. Join Linda as she talks about authors in Canada and sometimes with them, using her expertise to shed some light on recent and not so recent writers. And now, get ready for Getting Lit with Linda.
Hi, this is Linda Mora, the writer and host of Getting Lit with Linda. Today's episode is one of those, both in French and English. If you'd like to listen to the French portion of this episode, please jump to around the 12-minute mark, where you'll catch me talking about Marie-Claire Blais's Mad Shadows in French. I love beauty. I think the natural world, exquisite. Often finding myself studying zebra spiders or dragonflies, marveling over the beauty of their forms. I love the warmth and connection with other people over a good meal. I think that's beautiful, learning about our uniqueness, delighting also in what we share in common. There's, of course, also physical beauty. Let's not pretend that humans aren't attracted to what they consider most beautiful in each other. And I won't deny my own susceptibility. In terms of fashion, for example, I might identify what I consider beautiful in a recent issue of Elle magazine, or in my favorite shoe store, Fluvog. Okay, those shoes are a work of art, however expensive they may be. But I might find what is beautiful equally in Value Village as in Holt Renfrew. I'm tossing up some images on Instagram to show some of the things I found as examples. But this had me thinking about how historically we've actually defined what we consider beautiful in relation to wealth and power and privilege, however unconsciously. I think of Renoir's paintings of bourgeois women who had access to food and whose more full-bodied selves were valued, or the lush portraits of the wealthy patrons of the arts, whose girth was as much a sign of their financial status as the very elaborate clothing they were wearing for the paintings for which they were posing. Tanning beds, which became popular in the 1980s, suggested you were able to travel and had the means to do it. Behind so much of what we consider beautiful might actually be an attraction to money and power and privilege, or is intimately related to it. It means that we need to examine what we consider beautiful and why, and how our understanding of beauty may in fact be damaging to ourselves and to others. This brings me to the author of today's conversation, the Quebecois writer Marie-Claire Blais, and the book she authored at the age of 20, La Belle Bête, or Mad Shadows in English. Published in 1959, the novel explains why she was identified as a most precocious and original writer, as she was. She went on to publish more than 40 books of poetry and plays and fiction, including a personal favorite of mine, Soif, finally translated by the Quebec-based celebrated translator Sheila Fishman as These Festive Nights and part of the 10 novels of her Soif cycle. And it also includes perhaps her most famous, Une saison de la vie d'Emmanuel, which secured her place as a renowned author. Most of these have been translated at least into English. I've said it in past episodes, and I'm going to say it again now. Literary prizes aren't necessarily an indication of literary merit, in my humble opinion. But also, in my humble opinion, Blais more than deserves all the accolades she received, which include Prix Médicis, the Prix Belgio-Canadien, the Prix France-Québec, and the Governor General's Award 4 times. To be clear, Blais wasn't just recognized in French literary circles, but widely applauded in English ones across the world. As an example, she was featured in an article for The New Yorker by Pashamala, who spoke about her brilliant original writing and about how it inspired another famous author we just might know, Margaret Atwood, who at the age of 19 read this book already published by Blais when she was 20. But I don't want to make the same mistake I made in an earlier episode about Kevin Lambert, in which I contextualized his writing within an English literary tradition. Blais needs to be seen and appreciated alongside other prestigious French writers, such as André Breton or André Gide. But to the novel at hand, Mad Shadows really is all that, and then some. To offer some context for this novel, it's important to understand that the crude language, violence, and sense of the macabre were shocking to its audience of the time. And although it was denounced in some quarters and created quite the controversy when it appeared in Quebec, it was also quickly translated into English, Italian, and Spanish. And then it was turned into a ballet in 1977 by the National Ballet of Canada and staged in 1987, starring no less than Karen Kane and Veronica Tennant, in time to celebrate the company's anniversary. And that's still not all. In 2006, it was adapted to the screen by Karim Hussein. The story features three main characters: a young, exceptionally beautiful, but narcissistic and simple-minded boy, Patrice, his mean-spirited and ugly older sister, Isabelle Marie, and their vain and selfish mother, Louise. As the matriarch of the family, she has both wealth and power. Louise is independently wealthy, the owner of several farms, which allows her the time and luxury to dote on Patrice, his beauty a mirror for her own. She's obsessed with her son's beauty, never questioning the intelligence of her, quote, 10-year-old Adonis. But she does so to the utter and terrible neglect of her own daughter, Isabelle Marie, to whom she delegates menial work. Isabelle Marie works the hardest of the three, but her labor, her very person, is ignored. And so her daughter's bitterness and resentment grows and grows to almost epic proportions. Patrice is not, however, free from abuse either. He becomes so dependent upon his mother's adoration that when she becomes involved with another man, Lance, and neglects her son, he becomes completely lost and begins to deteriorate. There seems to be a glimmer of hope when Isabelle Marie meets another young man named Michael, who was rendered blind by an injury he sustained in his youth. She persuades him that she is exceptionally beautiful, and so the relationship is predicated on this lie, on this superficiality. This is not a John Keatsian moment of beauty is truth, truth beauty, in his poem Ode to a Grecian Urn. And the ugliness of the lie, rather than of Isabelle Marie's person, is what comes to light when Michael regains his sight. Michael thus leaves his wife and their daughter, Anne, who resembles her mother in terms of her physical appearance. And Isabelle Marie thus returns back to her childhood home, where she begins to treat Anne the way her mother Louise treated Isabelle Marie. The cycle of trauma and abuse, in other words, gets passed down from one generation to the next. The story reaches its height when, in a fit of rage, Isabelle Marie pushes Patrice's face into a pot of boiling water, causing him to be permanently disfigured. His mother, Louise, cannot bear to look upon the ugliness of her son thereafter, so she sends him away to an insane asylum. The destruction doesn't end here. Isabelle Marie sets fire to the farm, a fire in which Louise dies. Isabelle Marie repels her daughter and parts ways with her with the intention of taking her own life. And Patrice drowns himself after seeing his badly disfigured face in his reflection in the lake. This nuclear family, consumed by its selfish obsessions about beauty, is totally annihilated. Mad Shadows is a gritty reminder that narcissism is not the same thing as self-love, that self-absorption is not the same thing as self-respect, and that an obsession with beauty is not the same thing as identifying and appreciating what beauty actually is and how it may be manifested. certainly not as a function of power or prestige or wealth. Whatever else may be said, Marie-Claire Blais' novel is not about the perils of beauty, but rather about how value systems that are tied exclusively to superficial or single-minded definitions of beauty are wont to be fundamentally destructive, both for ourselves and for others. J'adore la beauté. Je trouve exquis le monde naturel, par exemple, et je me retrouve souvent à admirer les araignées zébrées ou les libellules, m'émerveillant devant la beauté de leur forme. J'aime la chaleur et les rapports qui prennent forme avec les autres quand vivent autour d'un bon repas. Ça, à mon avis, c'est beau. Et j'ai apprécié de découvrir ce qui rend chaque convive unique et me réjouir de ce que nous avons en commun. Il y a bien sûr aussi la beauté physique, ne faisant pas semblant que les humains ne sont pas attirés par ce qu'ils considèrent comme la plus attirant chez les autres. Et je ne vais pas nier ma propre susceptibilité. En matière de mode, par exemple, je pourrais identifier ce que je considère comme beau dans un numéro récent du magazine Elle ou à mon magasin de chaussures préféré Fluvogue. Ces chaussures sont des œuvres d'art, même s'ils sont très, très chers. Mais je pourrais trouver ce qui est beau également au Village des Valeurs, ainsi que chez Who Run Through. J'ai publié quelques images sur Instagram pour montrer certaines des choses que j'ai trouvées à titre d'exemple. Mais cela m'a fait réfléchir quant à la façon dont, historiquement, nous avons réellement défini ce que nous considérons comme beau par rapport à la richesse, au pouvoir et au privilège, même inconsciemment. Je pense, entre autres, aux toiles de Renoir représentantes des bourgeoisies qui ne manquaient pas de nourriture, de toute évidence, et dont la forme plus corpulente était mise en valeur, ou bien aux portraits de riches mécènes des arts, dont la corpulence ainsi que leurs vêtements très élaborés étaient un signe de leur richesse lorsqu'ils posaient pour les tableaux. Donc, on peut conclure que la beauté parfois est liée à la richesse. Pensant en plus récemment, dans les années 1980, les lits de bronzage sont devenus plus accessibles à quiconque décidait de voyager et qui avait les moyens de le faire. Derrière une grande partie de ce que nous considérons beau se cache peut-être en réalité l'attrait que l'argent, le pouvoir et les privilèges exercent sur nous, facteurs qui sont intimement liés à la beauté. Cela signifie que nous devons nous pencher sur ce pourquoi nous considérons quelque chose de beau et comment notre compréhension de la beauté peut nous être malsaine ainsi qu'aux autres. Cela m'a même à l'auteur de la conversation d'aujourd'hui, l'écrivaine québécoise Marie-Claire Blais, et le livre qu'elle a écrit à l'âge de 20 ans, La Belle Bête, Mad Shadows en anglais. Publié en 1959, le roman explique pourquoi elle a été identifiée comme une écrivaine très précoce et originale, ce qu'elle était. Elle a ensuite publié plus de 40 œuvres de poésie, des pièces de théâtre et de fiction, dont une que j'affectionne personnellement. Celle-ci s'intitule « Soif ». Elle a été très bien traduite en anglais par Sheila Fishman sous le titre « These Festive Nights » et fait partie de 10 romans de sa série « Soif ». La plupart d'entre eux ont été traduits au moins en anglais. Son plus célèbre roman, qui s'intitule « Une saison de la vie d'Emmanuel », lui a assuré sa réputation d'auteur de renom. Je l'ai déjà dit et je le répète, les prix littéraires ne sont pas nécessairement une indication du mérite littéraire. À mon humble avis, Blais mérite amplement toutes les distinctions qu'elle a reçues, notamment le prix Médicis, le prix Belgo-Canadien, le prix France-Québec et le prix du gouverneur général à 4 reprises. Pour être on ne peut plus clair, Blais n'a pas seulement été reconnu dans le cercle littéraire québécois et français, mais au-delà de ceci, elle a été largement applaudie dans les cercles littéraires anglais du monde entier. À titre d'exemple, elle a été présentée dans le cadre d'un article de Pachamala de New Yorker qui évoquait son écriture brillante et originale et qui a inspiré une autre auteure célèbre que nous connaissons sûrement, Margaret Atwood. À 19 ans, elle a lu ce livre déjà publié par Blais alors qu'elle avait 20 ans. Une fois ceci dit, je ne veux pas commettre la même erreur que celle que j'ai commise lors d'un épisode précédent avec Kevin Lambert, dans lequel j'avais contextualisé son écriture dans le cadre d'une tradition littéraire anglaise. Blais doit être vu et apprécié à l'instar de d'autres écrivains français prestigieux, tels que André Breton ou André Gide. Mais pour le roman en question, La Belle Bête est vraiment tout cela, et bien plus. Pour situer ce roman dans son contexte, il est important de comprendre que le langage grossier, la violence et le sens du macabre ont choqué le public, comme les textes de Michel Tremblay à l'époque. Et bien que les textes de Blais aient été dénoncés dans certains milieux et aient créé toute une controverse lors de leur parution au Québec. La Belle Bête a également été rapidement traduit en anglais, italien et espagnol. Puis il a été adapté pour le ballet en 1977 par le Ballet national du Canada et mis en scène en 1987, mettant en vedette Karen Kane et Veronica Tennant, juste à temps pour célébrer l'anniversaire de la compagnie. Et puis, en 2006, il a été adapté pour le cinéma par Karim Hussain. L'histoire met en scène 3 personnages principaux. Patrice, un jeune garçon d'une beauté exceptionnelle, mais narcissique et simple d'esprit. Isabelle Marie, sa sœur aînée, mesquine et laide. Et Louise, leur mère, vaine et égoïste. En tant que personne matriarcale de la famille, Louise a à la fois richesse et pouvoir. Elle est indépendante de fortune, propriétaire de plusieurs fermes, ce qui lui donne le temps et le luxe de se dévouer à Patrice. La beauté de ce dernier était un miroir de la sienne. Elle est obsédée par la beauté de son fils et ne remet jamais en question l'intelligence de son Adonis de 10 ans. Mais elle fait un grand détriment de sa fille, Isabelle Marie, à qui elle délègue des travaux de moindre importance. C'est Isabelle Marie qui travaille le plus fort de toi, mais son travail, sa personne elle-même, est ignorée. Et ainsi son amertume et son ressentiment grandissent et prennent des proportions presque épiques. Ce n'est pas parce que la mère de Patrice le flatte qu'il n'est pas non plus à l'abri de ses abus. Il devient tellement dépendant de l'adoration de sa mère. Lorsque celle-ci commence une relation avec un homme lance et néglige son fils, il est complètement perdu et ainsi commence sa descente aux enfers. Il semble y avoir une lueur d'espoir lorsqu'Isabelle Marie rencontre un jeune homme qui s'appelle Michel. Rendu aveugle à la suite d'une blessure subie dans sa jeunesse, elle le persuade qu'elle est exceptionnellement belle. Donc, leur relation repose sur ce subterfuge. Il ne s'agit pas d'une révélation de John Keats au sujet de la beauté et la beauté de la vérité, dans son poème « Ode à une urne grecque ». Et c'est la laideur du mensonge, plus que celle de la personne d'Isabelle Marie, qui se découvre lorsque Michel retrouve la vue. Conséquemment, Michel la quitte ainsi que leur fille, Anne, qui ressemble à sa mère de par son apparence physique. Et Isabelle Marie retourne alors à la maison de son enfance où elle commence à soigner Anne de la même manière que sa propre mère, Louise, l'a traitée. En d'autres termes, le cycle des traumatismes et des abus se transmet d'une génération à l'autre. L'histoire atteint son paroxysme lorsque, dans un accès de rage, Isabelle Marie plonge le visage de Patrice dans une casserole d'eau bouillante, le défigurant ainsi complètement. Sa mère, Louise, ne peut pas endurer voir la laideur de son fils, alors elle le fait envoyer à une asile d'aliénés. La descente aux enfers ne serait pas là. Isabelle Marie met le feu à la ferme dans laquelle Louise meurt. Isabelle Marie repousse sa fille et se sépare d'elle avec l'intention de se suicider. Et Patrice se noie lorsqu'il voit son visage gravement défiguré dans ce reflet dans le lac. La famille nucléaire, consumée par ses options égoïstes de beauté, est totalement anéantie. La belle bête est un rappel brutal que le narcissisme n'est pas la même chose que l'amour de soi, que l'égocentrisme n'est pas la même chose que le respect de soi-même, et qu'être obsédé par la beauté n'est pas la même chose que d'être réellement capable d'identifier ce qu'est réellement la beauté. Quoi qu'on en dise, le roman de Marie-Claire Blais ne traite pas des périls de la beauté, mais plutôt de la façon dont le système de valeurs, exclusivement lié à des définitions superficielles ou bornées de la beauté, ont tendance à être essentiellement destructeurs, tant pour nous-mêmes que pour les autres. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous écoutez cet épisode à la mi-avril 2024, veuillez noter que mon prochain épisode sera en direct au Festival Blue Metropolis le 27 avril avec les auteurs de Valley of the Bird Tale, Andrew Stobel Snyderman et Douglas Anderson à Mobinasi. Merci de m'avoir écouté comme toujours, chers auditeurs. And that's it for today's episode. If you're listening to this episode in mid-April 2024, please note that my next episode will be live, staged at the Blue Met Festival on April 27th with the authors of The Valley of the Bird Tale, Andrew Stobel Snyderman and Douglas Sanderson at Mobinasi. Thanks, as always, for listening, my dear listeners.
That was Getting Lit with Linda, hosted by Linda Mora. If you have a topic you would like to hear covered, write to us at gettinglitwithlinda@gmail.com. Until next time, we hope you continue to get lit.